Bastien, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour.
Voilà, Bastien, avant de commencer à parler du pèlerinage, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, voilà, bon, je m'appelle Bastien, j'ai la trentaine. Et je trouve que j'étais donc disponible pour faire ce beau pèlerinage. Je viens de l'île de France. Moi, je suis originaire de l'île de France et je suis descendu pour faire, si possible, l'intégralité de la route ouest si j'ai pas d'autres contraintes qui se présentent.
Ah oui, là c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a eu pas mal de pèlerins qui ont témoigné, qui ont fait des portions, on va dire, du
Ah, qui
pèlerinage,
ont fait des étapes, oui. Non,
des
non, moi
étapes.
je recherchais à faire un pèlerinage qui soit organisé ici. Il se trouve que Jacques, qui est l'organisateur de la branche du parcours de la branche ouest, avait besoin de quelqu'un pour conduire la voiture balai à l'arrière du pèlerinage qui encadre les pèlerins, qui sert de relais pour les bagages par exemple, ou pour les personnes qui sont là. Et donc, j'ai dit oui, et puis voilà, donc je fais ce travail-là une demi-journée, et l'autre partie de la journée, je marche.
Alors pour essayer de se représenter visuellement le pèlerinage, c'est en fait la calèche qui est devant, c'est ça, avec la statue de la
C'est
Vierge
ça,
Marie?
voilà, donc vous avez une voiture ouvreuse qui est devant la calèche, avec un local qui nous guide. La calèche elle-même, avec des places assises, donc qui est tirée par une jument qui s'appelle Udayan. À l'arrière de la calèche, un caisson avec la statue de Notre-Dame de France, qui est fleurie, qui est juste devant moi, qui est abondamment fleurie, avec des fleurs cueillies par les pèlerins tous les jours. Et puis ensuite, il y a le cortège de pèlerins, dont le nombre varie. On a eu jusqu'à 300 pèlerins du côté de Notre-Dame de Verdelais. Aujourd'hui, on est une petite dizaine. Et enfin, en queue de cortège, on a donc le camion que je conduis avec les bagages des organisateurs, tout ce qui concerne l'équipement du cheval, notre nourriture, etc. Et des places assises pour les pèlerins qui sont fatigués.
Alors, Bastien, vous disiez le nom de la jument, c'est Udayan, c'est ça?
Udayan, oui.
Udayan, alors.
Udayane.
Deux N9, d'accord, oui, parce que c'est Vladimir sur la route Est, le nom du cheval.
Le cheval, ah oui, c'est ça, oui. Ça va, je crois que c'est un mâle ici, c'est une femelle.
Oui. Et alors, au départ, Bastien, parce que vous avez répondu oui tout de suite à ce pèlerinage, mais au départ, comment vous avez appris que ce pèlerinage
En fait,
existait?
je cherchais à faire un pèlerinage qui soit en groupe, si vous voulez, convivial, et pas partir tout seul sur des sentiers que je ne connaîtrais pas. Donc je pensais évidemment aux pèlerinages les plus connus, Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors les frontières étant fermées avec le coronavirus, ben, je me suis reporté sur les pèlerinages français. J'ai tout simplement tapé dans mon moteur de recherche « pèlerinage en France ». Et je crois que l'un des premiers résultats qui est apparu, c'est le M de Marie. Et, quand j'ai lu la présentation du projet, donc qui est en l'honneur, qui est un pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de France, ça m'a tout de suite emballé. Et voilà, je crois que dans les deux minutes qui ont suivi, j'ai appelé l'organisateur de la branche ouest, Jacques, et puis je lui ai proposé de rejoindre l'équipe qui organisait le pèlerinage. Enfin, lui m'a expliqué qu'il recherchait quelqu'un pour des activités logistiques, et j'ai dit d'accord. Et voilà, quelques jours après, j'ai pris le train jusqu'à Lourdes et je l'ai pris en fait le jour du déconfinement, le train.
Et oui. Et alors du coup, donc Bastien, vous êtes sur les routes depuis, il a démarré le 2 juin ce pèlerinage, hein, donc
depuis
presque 27 jours, vous êtes sur les routes.
Oui, depuis 27 jours, oui, c'est ça.
Et alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont vous le vivez? Parce que je pense que chaque pèlerinage est unique et particulier. Et vous,
oui,
comment vous le vivez?
Chaque jour est une nouvelle aventure.
Et chaque jour aussi, et oui.
Des gens superbes. On manquerait de temps sur les créneaux de 20 minutes pour rendre compte de ce qui se passe chaque jour. J'ai l'impression d'avoir passé une année complète, tellement les journées sont riches et intenses. Il y a la messe tous les jours, il y a les laudes, les vêpres, les veillées tous les soirs avec soit des adorations, soit des chapelets, soit des... Enfin, regarder des films sur une thématique particulière, des conférences. On a eu un médecin de Lourdes qui nous a fait une conférence. Voilà, pour tout ce qui est religieux. Sur le chemin, on fait le rosaire. Ensuite, je dirais que ce qui est intéressant dans le pèlerinage, c'est qu'on on rencontre vraiment des gens de très différents les uns des autres, déjà parce qu'on traverse plusieurs départements. Donc là, par exemple, on est pile à la frontière, au moment où je vous parle, entre la Gironde et la Charente. Il y a un petit pont, et c'est la frontière. La Gironde et la Charente.
La calèche entre en Charente.
Tout de suite, on n'est plus. Comment ?
Oui, la calèche entre en Charente aujourd'hui, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça, là. Elle est exactement sur la frontière entre la Gironde et la Charente.
D'accord.
Et on voit tout de suite qu'on change de département, ne serait-ce que du point de vue du paysage ou de la mentalité des gens qui sont beaucoup plus calmes en Charente. En Gironde, ils sont un peu plus excités, on va dire. Et voilà, du point de vue des pratiques religieuses, on a eu vraiment un riche éventail. On a eu les cédévacantistes, les traditionnalistes, les conciliaires, les œcuménistes. On a eu la messe de dos, la messe de trois quarts, la messe où le prêtre est face à nous. On l'a eu en latin. On l'a eu. Il y a un moment à Saint-Jean-Baptiste, où on a fait un rosaire international avec des gens qui ont fait le rosaire dans toutes les langues. C'est très intéressant. Quoi. On voit plein de façons différentes de vivre la foi catholique. C'est passionnant. Et puis on est accueilli par des gens qui sont pour qui, si vous voulez, la Vierge Marie, c'est vraiment un regain d'espoir, de foi, de spiritualité, d'animation, en particulier dans les petits villages. C'est moins impressionnant dans les grands villages, en fait, ou dans les grandes villes.
Oui.
Très impressionnant dans les petits villages, où là, il y a vraiment tout le petit village qui si le village fait 200 habitants, vous avez les 200 habitants qui viennent à la messe, à la veillée. C'est impressionnant.
Et alors, justement, Bastien, au long de ce pèlerinage, vous disiez, bon, vous avez fait des belles rencontres, vous avez vu. Est-ce que justement vous avez un témoignage ou deux, quelques exemples à nous donner sur certaines de ces rencontres, certaines choses que vous avez vues, des grâces auxquelles vous avez assisté?
Oui, on voit des choses qui sont assez. Qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours, en particulier quand on est laïque comme moi et qu'on n'est pas dans le clergé, qu'on n'est pas dans la vie religieuse. Je ne sais pas. Deux exemples, dans les pèlerinages, il y a des hauts et des bas. Et à un moment, il y a un cocher qui a complètement pété les plombs et on a assisté à une espèce d'exorcisme au beau milieu des champs où tout le monde récitait des prières d'exorcisme pour chasser le démon et ça. Et finalement, ça a fonctionné. Je ne sais pas, un autre exemple. Eh bien, il y a souvent des exemples de non-croyants qu'on rencontre et puis qui finalement se laissent convaincre et au fur et à mesure qu'on discute avec eux, eh bien, ils se rendent compte que la France est un pays chrétien, qu'eux-mêmes ont une vision plutôt chrétienne des choses et d'une certaine façon, ils font leur conversion grâce au pèlerinage. Autre anecdote, autre exemple de ce qu'on peut faire, eh bien, je ne sais pas, hier soir, on a été d'une certaine façon obligé de contourner une ville obligé de contourner une ville où on n'était pas les bienvenus parce que dirigée par des communistes. Et on s'est retrouvé dans une propriété privée. On a fait la messe dans les champs qui sont maintenant à cette propriété privée. C'est un grand domaine viticole, mais il y a des champs aussi. Et voilà, donc c'était très beau, c'était très beau. On a fait une veillée avec un feu de bois, c'était un champ où il y avait des drapeaux de la France avec des sacrés cœurs représentés dans la zone blanche du drapeau de la France. Et puis il se trouve que on n'était pas spécialement les bienvenus du côté de la ville, on aurait dû s'arrêter d'une part parce que donc la mairie est communiste et d'autre part parce que le prêtre n'appréciait pas trop notre démarche. Et c'est finalement un prêtre qui s'en vient du Togo, qui ému par notre invocation à Notre-Dame de France, a accepté de nous faire la messe au beau milieu de ce champ. Voilà, on était, je sais pas, une cinquantaine de personnes à suivre une messe comme ça, improvisée, dans un domaine qui nous a été gentiment ouvert au pied levé, si je puis dire. Donc voilà, c'est chaque journée est différente. Et c'est ça qui est passionnant, si vous voulez. On rencontre des gens auxquels on n'aurait jamais pu parler dans d'autres circonstances.
Et alors là, Bastien, vous avez eu, c'est la question que j'allais vous poser, vous aviez donc bien sûr un prêtre qui était là pour cette messe en plein champ, un prêtre du Togo qui est venu pour vous, pour célébrer la messe avec vous.
Oui, en fait, j'imagine que voilà, c'est dans le cœur de tous les hommes d'invoquer Notre-Dame pour son pays, pour sa patrie, et lui-même était touché par notre démarche. Et apprenant que on avait dû se reporter sur ce domaine privé, eh bien, il a gentiment accepté de nous suivre sur les derniers kilomètres de la journée et puis de célébrer cette messe en plein champ.
Ah, c'est beau, ouais.
Donc, voilà. Ça fait partie de. Mais c'est cette anecdote que je vous raconte, j'en dis comme ça depuis le 2 juin.
Oui, c'est ça, oui, presque tous les jours.
Ça paraît extraordinaire parce que je la raconte, mais en fait, je pourrais vous expliquer, je pourrais vous raconter des anecdotes comme ça pour chacun des jours des pèlerinages.
Ah bah écoutez, Bastien, si vous en avez une autre là qui vous vient, on vous écoute volontiers. Hein.
On voyage avec une sœur franciscaine qui s'en vient du Tarn, elle, et il se trouve que voilà, je crois qu'elle a perdu toute sa famille et elle avait abandonné la foi pendant un grand nombre d'années. Et elle l'a retrouvée sur le tard et elle a à peu près le même parcours que moi vis-à-vis du M de Marie, puisque c'est un peu au pied levé. En fait, tous les organisateurs du pèlerinage dans la branche ouest, à part Jacques, qui est le responsable, on rejoint le pèlerinage un peu au pied levé, si vous voulez, parce que voilà, ils ont été mis au courant à la dernière minute de ce pèlerinage par un relais de paroissiens. Enfin, cette sœur nous vient donc du Tarn et elle devait conduire la voiture ouvreuse du 2 juin jusque bien 2 semaines après. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il se trouve que le pèlerinage est tellement uni que finalement elle est toujours là aujourd'hui.
Elle est restée.
Le 29 juin. Elle nous suit toujours et elle est merveilleuse. C'est que cette sœur qui devait nous aider pendant 2 semaines, qui devait conduire la voiture ouvreuse de la calèche pendant 2 semaines, nous accompagne finalement depuis un mois. Voilà. Donc,
une belle grâce aussi.
Elle était censée simplement rester 2 semaines. Elle nous accompagne depuis un mois et elle est absolument remarquable. Elle a toujours beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup de dynamisme. Elle fait la cuisine, elle fait tout ce qu'elle fait, les offices avec. On a une autre sœur religieuse qui, elle, s'en vient du Congo, où elle était censée retourner, mais en raison du confinement, elle n'a pas pu retourner au Congo. Elle est elle-même d'origine malgache, je crois. Donc elle est un petit peu asiatique, des métisses asiatiques et africaines, je pense. Et voilà, elle est dans une congrégation qui porte le nom de Marie Messagère de l'Amour, qui a été fondée par des Français et des Congolais et qui est active au Congo actuellement. Voilà. Et donc cette sœur-là devait retourner au Congo et le confinement a fait que elle est parmi nous, elle est là pour 3 mois. Donc elle est dans les ordres, tandis que la sœur franciscaine qui vient du Tarn est dans le tiers ordre.
Oui.
Laïque consacrée.
Laïque consacrée, oui. Bastien, là, pour la journée d'aujourd'hui, là, quelle est la suite du programme pour aujourd'hui et demain?
Alors, pour aujourd'hui, on va dans une ville qui s'appelle Bussac-Forêt, qui est en Charente-Maritime. Et ensuite, nous irons demain à Montendre. Il y a à peu près 10 km entre chaque étape, 10-15 km entre chaque étape.
Et je pense que le pèlerinage donc, de cette route ouest va plus ou moins, à un moment, longer quand même un petit peu l'Atlantique pendant un moment, je crois.
Ah oui, nous longeons l'Atlantique, oui.
C'est ça, hein. Oui.
Oui, ce n'est que quand on arrivera au Pays de la Loire qu'on s'éloignera vraiment de la mer pour la retrouver finalement quand on arrivera du côté de Promain, du côté du Mont-Saint-Michel en fait.
Oui, c'est-à-dire que le premier arrêt, après bien sûr le départ depuis le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le premier sanctuaire marial important, ensuite c'est Promain, hein. Même
Oui, c'est ça, oui.
si vous avez peut-être, j'imagine, traversé des. Parce que c'est étonnant de découvrir, on l'a vu aussi avec d'autres pèlerins de la route Est, c'est des endroits, des petits lieux de pèlerinage peu connus, mais qui existent et dédiés à la Vierge Marie. On en découvre en France un peu partout, en fait.
Ah oui, absolument. Absolument. En particulier ici, dans le côté de l'ouest de la France. Ouest de la France, peut-être le centre, et je dirais l'est du côté des Vosges, j'ai resté très, très, très chrétien. Et c'est vrai que nous avons des calvaires et des statues de la Vierge sur tous les chemins que nous empruntons. Hein. C'est assez impressionnant. Je pense que si on avait la même chose en Île-de-France, où je suis originaire, ça se passerait mal. On aurait.
Oui.
On nous pourchasserait.
Et en tout cas, donc Bastien, vous allez aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à Notre-Dame de Pellevoisin?
J'aimerais bien, simplement, je crains d'avoir des contraintes professionnelles qui font que je
Oui,
serai obligé de rentrer un peu plus tôt. Voilà.
en tout cas, vous aurez déjà fait un bon parcours. Hein.
Oui, je pense que j'irai au moins jusqu'à Poma, jusqu'à la Bretagne.
Oui.
J'aurais fait plus des deux tiers, les trois quarts, disons.
Oui. Alors vous-même, je vous ai pas posé la question avant de peut-être de rendre l'antenne, mais Bastien, vous-même, quel était votre rapport justement à la vie, à la foi
Moi,
chrétienne?
j'étais, disons, j'ai été baptisé, je suis chrétien, j'ai eu un rapport assez personnel à la foi et peut-être je me rends compte à l'occasion de ce pèlerinage qui n'était pas assez engagé dans la société, si vous voulez. Hein, pas assez, peut-être, je ne sais pas comment dire ça,
Missionnaire ou
actif,
oui.
vous voyez. Donc là, c'est l'occasion effectivement de rencontrer des gens qui partagent la même foi et qui ont un exercice du culte, une pratique qui est bien plus importante que la mienne. Et donc, bon, je crois que grâce à la sœur qui est dans les ordres et qui travaille habituellement au Congo, je vais apprendre l'ensemble des chants mariaux traditionnels en 3 mois. On les chante tous les jours. Et c'est vrai que voilà, c'est à la fois, si vous voulez, une façon de développer son corps par la marche, parce qu'il faut être assez endurant quand même. On se lève tous les jours à 6-7 heures du matin, on fait 10, 15, 20 km parfois dans la journée, et puis il y a toutes les activités logistiques. Et donc c'est à la fois une façon de développer son corps et de développer son esprit, sa spiritualité, puisque d'une façon, c'est comme si on était en retraite, si vous voulez, dans un monastère. On se consacre essentiellement à la religion pendant 3 mois. Et j'ai tout un tas de souvenirs des messes, des chants religieux, des comment dire. Oui, tout ce qui concerne la tradition catholique qui me reviennent en tête et qui était un peu évanescent, si vous voulez, que j'avais laissé de côté pendant un certain temps. Et voilà, tout cela revient. C'est une sorte de retraite, mais dans le monde, si vous voulez. On n'est pas dans un monastère, on est sur les chemins. Et c'est ce qui me plaît. On n'est pas totalement absent de la société. On est dans la société et en même temps, on pratique notre foi. Je pense que c'est ce qui a manqué à l'Église catholique de France, le côté un petit peu, si vous voulez, carmélite, c'est-à-dire retiré du monde, comment dirais-je, qui semble caractériser l'Église catholique de France depuis un certain nombre de décennies, peut-être même plus longtemps. Tandis que dans d'autres pays, vous avez vraiment une Église catholique qui est engagée dans le monde, c'est-à-dire qui n'est pas trop discrète, qu'on voit, qui s'engage politiquement, socialement, qui organise des pèlerinages très visibles. On a eu la joie d'avoir avec les prêtres polonais, deux prêtres polonais, ils ont expliqué que le nombre minimum de pèlerins pour un pèlerinage comme celui de Pologne, là j'ai oublié le nom, vous connaissez peut-être,
Chestokova,
d'être accueilli. Oui, c'est ça, ça. Vous avez au moins 500 pèlerins qui partent de Cracovie pour aller à Tchersova. Donc, vous voyez, c'est une église qui est beaucoup plus engagée dans le monde, en Pologne. Ici, la nôtre, elle est un peu plus effacée, et elle n'est pas forcément très, très, comment dirais-je, très portée sur notre pays, sur la France, sur le soutien des Français en priorité. Et d'une certaine façon, on essaye de rééquilibrer les choses par ce pèlerinage. Je crois que c'est l'essence profonde de ce pèlerinage, de renouer avec une certaine tradition catholique qui est plus engagée dans le monde, en particulier dans les sphères sociales intermédiaires entre l'individu et l'humanité, c'est-à-dire les familles, les différentes régions, et puis les nations, les patries.
Oui, je veux, oui.
C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on n'est pas forcément bienvenu partout, mais bon, c'est le jeu, hein.
Une église en France, oui, par rapport, vous disiez, vous parliez de la Pologne, bien sûr, une église peut-être qui est peut-être davantage attaqué en France, et puis peut-être parfois un peu timoré, hein, on peut le dire.
Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Mais je pense qu'elle est davantage attaquée parce qu'elle est timorée.
Aussi, oui. Oui.
Si elle était moins timorée, on s'en méfierait davantage. Enfin, disons qu'elle aurait une autorité qui ferait que les attaques seraient moins importantes. Oui, c'est clair. C'est un beau projet, et puis je me dis à chaque fois avec les pèlerins avec qui je marche qu'on organise peut-être la première édition d'un pèlerinage qui, après tout, on a le droit de rêver, hein, d'espérer, qui prendra la dimension de celui de Saint-Jacques de Compostelle dans 100 ans, 200 ans, peut-être qu'on ouvre la voie à des milliers de pèlerins.
Eh bien, on va prier pour ça. En tout cas, merci, oui. Merci beaucoup, Bastien, pour ce beau témoignage.
Là, je vous en prie.
Et du coup, comme vous êtes un pèlerin de longue route, hein, vous allez continuer. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de vous réentendre à un autre endroit, peut-être plus loin en tout cas, sur l'antenne de Radio Maria France. Merci beaucoup pour ce temps de partage.
Avec plaisir.
Merci Bastien.
Avec plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.